Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Majdi Faleh, chercheur enseignant et représentant du réseau Engage Hub Tunisie pour le patrimoine humanitaire basé en Grande-Bretagne. Et le docteur Malek Lataoui, professeur à l'école polytechnique de Sousse en Tunisie. Et nous nous entretenons en marge du symposium Match 2021. Match en abrégé, c'est l'abrégé du Malaysia and Tunisia Cultural Heritage 2021, un symposium qui est le premier de son genre. Ma toute première question, ce genre d'échange culturel, surtout sur le patrimoine, ça se fait normalement dans un cadre nord-sud. Rarement a-t-on vu un pays de la rive de la Méditerranée entrer dans une collaboration scientifique, culturelle avec un pays asiatique, en quelque sorte une première mondiale.
Cette coopération, elle reste limitée dans le cadre du secteur de l'éducation, notamment en Tunisie. Étant académique, moi-même chercheur qui a vécu en Australie pendant plusieurs années, j'ai côtoyé plusieurs collègues qui viennent de la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et j'ai bien noté qu'il n'y a pas vraiment de connexion, il n'y a pas de pont entre les deux rives sud-sud. Ce qui est important dans le cadre des universités, des échanges universitaires, etc. Donc cette collaboration entre chercheurs, enseignants et étudiants organisée dans le cadre d'une école d'été Summer School pour les écoles d'architecture tunisienne et nous Polytech Sousse et l'université malaisienne de renommée IUM, donc l'université islamique internationale de la Malaisie, IUM créée pendant les années 80. Mmh. Cette école d'été aussi s'inscrit dans le cadre des projets du Network Engage, qui est un réseau qui travaille sur la promotion de l'héritage marginalisé dans différents pays, qui travaille sur le networking, sur les réseaux entre plusieurs pays dans le cadre de l'apprentissage ou bien collaboration sur le thème de l'héritage. Du côté de la Malaisie, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un cours intitulé Landscape Heritage and Cultural Studies. C'est un cours de troisième année à l'université IUM. On a essayé de créer cette collaboration, cette école d'été. En fait, il y a deux phases en ce qui concerne ce projet. Donc, le déroulement se déroule en deux phases principalement. La première, c'est la phase du 2 août jusqu'au 9 septembre. Donc, durant cette phase, chaque équipe d'étudiants a été appelée à travailler sur un site correspondant. Ce qui est intéressant, c'est que on a fait de sorte que les étudiants tunisiens sélectionnés après un interview travaillent sur des sites malaisiens, à savoir Johor Bahru, à savoir Malacca, à savoir Georgetown à Penang, et vice-versa. Donc, les étudiants malaisiens ont travaillé sur trois sites classifiés par l'UNESCO, donc à savoir Médina Tunis, Médina de Sousse et Médina de Kairouan en Tunisie. Au cours de la première phase, il y avait des conférences hebdomadaires programmées durant cette période, différentes séances de correction. On a demandé aux étudiants d'être créatifs, de créer des plateformes, de créer des analyses approfondies de l'architecture, de l'héritage de ces villes-là, des visites virtuelles à travers des 3D. Demain, le site où la présentation aux étudiants sera prête. Et la deuxième phase, brièvement, qui se déroule du 10 au 12 septembre, là, on est au premier jour. Donc, cette phase constitue l'aboutissement de la première phase. Se déroule sous forme d'un symposium virtuel qu'on vient de commencer. Il y a plusieurs conférences, plusieurs programmes, expositions virtuelles. Aujourd'hui, on a eu plusieurs conférenciers de la Malaisie, de la Grande-Bretagne. Demain, il y aura les étudiants, la journée pour les étudiants. Et dernier jour, il y aura d'autres conférenciers qui vont présenter sur la notion de l'héritage.
Normalement, voilà. Un événement pareil, on se serait attendu à des échanges, des voyages des étudiants ou même des enseignants d'une ville à l'autre, parce que bon, il s'agit quand même d'apprécier l'architecture, l'héritage culturel visuellement, concrètement, physiquement et le voir. Mais cette fois-ci, ça se passe virtuellement. Je vois des avantages, mais aussi des gros inconvénients.
Tout à fait. Vu le contexte dans lequel on vit depuis l'année dernière, la pandémie du COVID-19, vu qu'il y a beaucoup de restrictions en Malaisie, en Tunisie, partout pour voyager, on a décidé que la meilleure façon d'organiser ce séminaire-là, ce workshop, sera une école d'été virtuelle. Et ça peut se passer dans en temps normal aussi. En temps normal, ce serait intéressant vu qu'il y a beaucoup de limites pour voyager et tout, pour les étudiants, des fois pour les enseignants, etc. Donc, les avantages, c'est que ça a créé plusieurs opportunités pour résoudre les problèmes technologiques, pour être plus créatif, pour créer des plateformes virtuelles, notamment le site web, les pages virtuelles, etc., étaient créées principalement par les étudiants, entièrement par les étudiants, en fait, de A jusqu'à Z. Donc, il y a cette énergie qui s'est, il y a cette énergie pour l'échange, il y a cette énergie pour partager le savoir, il y a cette énergie pour partager l'information. Donc, on a cherché de l'information par rapport à ces sites historiques, les plans, coupes, façades, etc., les détails de ces sites historiques en Tunisie, en Malaisie. Donc, il y avait cette énergie de dérive. La limite, comme vous l'avez mentionné, c'est le fait qu'on ne peut pas voyager pour apprécier les détails, pour apprécier la vie des communautés qui vivent à travers cet héritage-là, qui peuvent nous donner leur perspective, leur histoire, raconter leur histoire, etc., par rapport à l'héritage matériel et immatériel, pas uniquement les bâtiments, mais aussi tout héritage immatériel, la musique, le chant, la gastronomie,
La
etc. Donc,
culture. Parce que quand
allez-y.
je vois ces sites historiques, ce n'est pas seulement pour l'aspect visuel, la culture, l'histoire. Et on se serait attendu à ce qu'il y ait aussi un aspect de favoriser les échanges touristiques entre les deux pays. Est-ce que c'est un des objectifs aussi de ce symposium ou c'est quelque chose qui vient de ma tête un peu de layman, comme on dit en anglais?
Oui, bien sûr, cet événement vise bien sûr à renouer, à établir des relations et des échanges, que ce soit sur le plan académique, sur le plan culturel et bien sûr sur le plan touristique, pour ainsi faire des échanges entre les deux pays et puis les deux continents entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Asie et le bassin méditerranéen en général. Finalement, le but touristique y est toujours.
Et ça, c'est un but qui pourrait aussi générer d'autres approches qui pourraient bénéficier de deux côtés à des communautés, donc que ce soit malaisien et tunisien, je suppose.
Ça paraît finalement que c'est juste un petit projet qui a juste des petites répercussions, mais réellement, comme étant un projet qui vise beaucoup d'aspects en même temps, c'est un grand projet qui essaie de toucher à plusieurs aspects en même temps.
Et ces sites sont-ils tous protégés dans le cadre du patrimoine international ou c'est des sites qui sont tout simplement sélectionnés pour leur aspect, leur richesse que vous connaissez en tant qu'expert?
Alors, en ce qui concerne les sites tunisiens, si je me permets, la médina de Tunis, Kairouan et Sousse sont des sites protégés par l'UNESCO depuis les années 70. Les sites malaisiens aussi, en ce qui concerne Malacca et l'île de Penang, Georgetown, sont des sites protégés. Johor Bahru, c'est un site qui est à la frontière avec Singapour. C'est un site qui a beaucoup d'emblèmes historiques, beaucoup d'emblèmes patrimoniaux, etc.
Et de
Donc
potentiel
voilà.
aussi.
Et on essaie de faire un peu de focus sur les communautés qui ont créé ces sites-là, les communautés qui ont interagi avec ces sites-là. Par exemple, en Malaisie, on voit la culture Pernakan culture qui vient du sud de la Chine. Donc cette culture-là a fusionné avec la culture malaise, la culture malaise en Malaisie, a créé ce qu'on appelle Pernakan culture et a eu beaucoup d'influence sur les tissus, sur l'architecture, sur les shop houses qu'on voit à Malacca, qu'on voit à Penang, etc. Donc C'est un tout, en fait.
J'étais à Kuala Lumpur, je vois l'invasion des grandes tours et les tours Petronas. Ça, c'est enfin, le symbole que l'on voit, mais le touriste moyen comme moi ne voit pas tous ces autres sites. En fait, il faut vraiment aller, comment dire, creuser profondément pour.
Non, c'est intéressant. J'ai la même vision en visitant Kuala Lumpur, notamment, ou bien Dubaï, par exemple. La majorité qui visite Dubaï, ils vont à GLT Towers, etc. Mais ils vont pas à côté de la rivière de Dubaï, l'ancienne ville, la petite ancienne ville de Dubaï, là où il y a les musées, là où il y a les habitations traditionnelles, etc. Donc, la ville du 21e siècle, il y a une dominance de cette culture-là, de mondialisation, des tours et tout ça.
Les grands bâtiments, ça fait partie de la puissance d'un pays, c'est de pouvoir montrer qu'on est capable d'ériger des gratte-ciel et des grands édifices en béton et en fer. C'est la modernité, entre guillemets. Ces autres richesses culturelles, comme celles dont vous avez évoqué en Tunisie, qui datent peut-être même de l'ère ottomane et même avant cela.
Même avant du sixième siècle, septième siècle, même avant.
Il y en a même de la période romaine, en fait, en effet. Finalement, la Tunisie est imbibée d'histoire, en effet. Il y a plein de monuments qui datent de cette période-là, comme par exemple les aqueducs de Carthage, qui ramènent l'eau d'une ville qui est Zaouen vers Carthage, et puis qui a été détournée pour alimenter la médina de Tunis en eau. Déjà, ce monument-là est l'un des plus longs. Je pense, c'est le deuxième sur le plan mondial de point de vue longueur. Il s'étend sur des centaines de kilomètres. Et il y a plein d'autres, finalement. Les origines des villes, c'est des origines puniques et même romaines. Et puis, beaucoup de civilisations sont passées par la Tunisie. Et il y en a les traces. Dans tout ce qui est bâtiment, même coutume et tradition, en effet.
Si je me permets d'ajouter un petit détail par rapport à la culture, ou par rapport à l'héritage romain en Tunisie, là où je suis né, la ville de Sbitla, on appelle Soufaïtla, donc c'est une ville romaine. On trouve même les vestiges du site romain qui est bien protégé, proprement protégé, je l'espère aujourd'hui aussi. Et il y a les arcs de triomphe qu'on voit à travers d'autres civilisations romaines à travers le monde. Donc on voit ça. On voit aussi à la ville El Jam. Donc il y a l'amphithéâtre d'El Jam qui est je crois le troisième le plus grand au monde après celui de Rome, si je me trompe pas.
Oui.
Donc il y a ces vestiges matériels et immatériels aussi. Il y a la culture aussi autour. Il y a les chants, les traditions, etc. qu'on essaie de protéger, nous, enseignants, chercheurs, architectes, travaillent sur la héritage, on essaie de sensibiliser les étudiants par rapport à ça. Les étudiants de Rive, pour qu'ils apprennent que c'est un héritage, un patrimoine qui doit être protégé, mais c'est un patrimoine universel, c'est un patrimoine pour l'humanité. C'est vrai que c'est ce patrimoine bien localisé dans une région, dans une ville, mais c'est un patrimoine universel. Donc, la responsabilité des parties, des étudiants des deux rives, d'apprendre en premier lieu. Apprendre les leçons de l'héritage des deux rives ou de plusieurs rives, l'Afrique et l'Asie, ce sont deux mondes à part. En même temps, c'est la première étape, sensibiliser, apprendre et après, ça se transmet d'une génération à une autre.
D'un point de vue du public moyen, moi je vois l'attrait touristique et aussi un certain danger, c'est que quand on vulgarise ce genre de patrimoine, ça attire le tourisme de masse, d'où cet aspect lame à double tranchant dans la mesure où le tourisme de masse va quand même influer négativement sur ces patrimoines si on ne les protège pas assez. Ça se voit sur Venise. Il y a une destruction de ces patrimoines.
En effet, ça c'est vrai, mais réellement, en parallèle avec l'attraction des touristes aussi, il faut qu'il y ait finalement des notions et des actions de protection du patrimoine. Parce que finalement, si on ne protège pas notre patrimoine, il va disparaître tôt ou tard, sans ou avec la présence de
De
touristes.
touristes.
Les problèmes de s'il y a des tremblements de terre, des vents ou bien de l'eau, des écoulements d'eau fortes, etc., ça pourrait bien éventuellement dégrader le patrimoine. Mais avec tout ça, il faut qu'il y ait, en parallèle avec l'attraction du touriste pour venir voir les bâtiments, etc., ce qui est légitime finalement parce que le patrimoine n'appartient pas justement à une seule région, à la Tunisie. Bien particulièrement, mais il appartient à tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait des actions de protection. Et là, il y a des techniques bien particulières pour conserver les bâtiments avec les matériaux de construction utilisés. Il y a des techniques pour la conservation.
Et quels sont les objectifs à partir de ce symposium? Quelle est la suite attendue de ce symposium?
Oui, bon, en effet, je vais m'étaler un peu sur ce point-là. Donc, le symposium en lui-même est le fruit d'un travail colossal d'un mois et demi visant à exposer les travaux d'étudiants des deux pays de deux hémisphères, Est et Ouest de la planète. Donc, il va y avoir aussi, aujourd'hui, il y a eu lieu la première journée de ce symposium et puis pendant les deux journées qui suivent. Qui va y avoir la présence de chercheurs internationaux, chevronnés, surtout des deux pays, Tunisie et Malaisie. C'est un projet, en effet, de partenariat qui permet encore aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur l'optimisation des images, des aspects et des valeurs du patrimoine, dans le contexte des deux pays partenaires plus particulièrement. Je vais m'étaler un peu plus sur les objectifs majeurs qui se concentrent sur quatre grands points. Donc, en premier lieu, c'est de fournir une plateforme de discussion et de partage de connaissances entre les institutions internationales et universitaires sur la base de développement de problèmes du patrimoine entre le passé et puis le présent et bien sûr le futur, ainsi que l'application de la technologie pour la gestion du patrimoine et des préoccupations socioculturelles entre la Tunisie et la Malaisie en particulier pour ce symposium-là. Donc ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième point, c'est l'établissement d'une bonne connexion entre les institutions des différents pays, ce qui peut créer des opportunités de collaboration et d'échanges mutuels pour les enseignants, pour les étudiants, pour les universités et même pour les citoyens en gros. Donc le troisième point, c'est de diffuser les résultats qui fait participer les étudiants. Cet événement-là ou ce symposium, il a été pratiquement en grande partie organisé par les étudiants. C'est pour leur inviter, pour les inciter à être actifs et de ne pas être passifs, juste de prendre les informations sans pour autant être actifs. Cet événement-là, il a fait l'objet, il était un partenariat entre des universités tunisiennes et des universités, l'université malaisienne. Donc, espérons qu'au futur, ça va toucher encore plus d'universités dans toute la planète, en effet. Donc, le dernier et le quatrième point, c'est d'optimiser les opportunités d'enseignement et d'apprentissage en ligne vers un autre palier, parce que là, on n'est pas réellement habitué à faire des enseignements ou bien des symposiums en ligne. C'est tout nouveau, ça date au maximum d'une année à cause de la pandémie COVID-19. Et puis, ça va nous amener à alimenter, à faire des possibilités d'échanges virtuels et d'échanges de connaissances entre les institutions internationales et ainsi permettre aux étudiants d'apprendre à organiser des événements sur le plan formel à travers des plateformes en ligne pour la communauté des différents, surtout fuseaux horaires. Donc, pour cette fois-ci, ça a touché à deux fuseaux différents, espérant que pour le futur, ça va toucher tout le monde.
Mis à part la réflexion sur l'héritage, sur les connaissances, les compétences qu'on peut développer et la sensibilisation par rapport à l'héritage, un des buts que j'avais en premier lieu en pensant à cette idée avec ma collègue professeur Khalila Zakaria de IIUM à Kuala Lumpur, c'était l'idée de s'ouvrir sur le monde anglo-saxon, le monde anglophone. C'est en particulier par rapport aux écoles d'architecture en Tunisie, par rapport aux architectes, etc. Ça manque beaucoup, ça manque énormément. Là, on parle en français, bien sûr. On est francophone, mais l'ouverture sur le monde anglophone est quasi, j'allais dire inexistante, mais oui, quasi inexistante entre les écoles d'architecture en particulier en Tunisie, Malaisie, etc., Indonésie, Australie, notamment Australie, là où j'ai vécu pendant plusieurs années. Ces collaborations-là rarement existent en Australie, par exemple, vu que j'ai travaillé dans plusieurs universités. Je sais que ça existe dans le domaine des sciences politiques, sciences sociales, à la limite entre des universités tunisiennes et Deakin University, Monash University, mais ça reste dans ce cadre. J'ai jamais vu une collaboration entre les écoles d'architecture en Afrique, en Tunisie, disons, et même en Afrique, ça reste limité. L'Afrique et l'Australie, par exemple. Donc, j'ai toujours eu cette idée de, on a eu comme, en travaillant en équipe, une telle collaboration en ce moment est bien nécessaire pour établir d'autres connexions et espérons dans un futur proche que ça va s'étaler sur d'autres pays comme Melek a mentionné, notamment l'Australie, là où j'ai mon réseau à travers les universités. Donc il y a un intérêt. Espérons qu'on va collaborer avec l'Australie avant ou après le COVID-19 pour établir cette connexion, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour apprendre l'héritage de l'autre, pour faire des recherches sur l'héritage de l'autre, etc.
Voilà, on est à court de temps. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer ce projet et ce symposium qui est vraiment fantastique.
Merci à vous, Bertrand. Si je me permets, une salutation aux conférenciers internationaux, notamment professeur Gamal Abdelmonem, Dr Rouhaya, Dr Ouns, Dr Poutri, etc., Dr Hanis, Dr Haza, Dr Nochen, Dr Asma, Dr Malik qui est parmi nous. Mais en particulier, je considère que les personnalités, vous m'avez demandé par rapport aux personnalités de cet événement, qui sont au cœur, sont les étudiants. Donc, les étudiants malaisiens et tunisiens ont travaillé bel et bien très sérieusement pendant un mois et demi. Les perles rares qui ont travaillé jour et nuit pour créer des visites virtuelles, des sites web, organiser l'événement et même pour faire l'organisation de la conférence même. Si vous cherchez les opportunités, allez au-delà de vos limites géographiques et politiques et même économiques, culturelles. Découvrez d'autres mondes, postulez, faites de nouvelles connaissances avec des enseignants, chercheurs, professeurs, professionnels. Ne laissez pas le cadre là où vous vivez, avec toutes ces complexités qui existent, vous limiter. Donc voilà, c'est mon message et merci à SBS français encore une fois.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.